La technologie par ceux qui l'utilisent au travail comme à la maison. C'est Tech2 sur Radio Kawa.
Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Tech2 épisode bonus, le podcast Radio Kawa qui regarde la technologie à travers ses usages, aussi bien au travail, dans la vie courante ou encore dans les loisirs. Je m'appelle Yann Rieder et comme à chaque épisode, je suis accompagné par mon camarade Franck Extanasier. Salut Franck.
Salut Yann.
Dans cet épisode un petit peu spécial, au sommaire de cet épisode spécial, uniquement une conversation sur notre première machine, les premiers ordinateurs auxquels on a touché dans notre vie. Pourquoi un épisode un peu spécial? On vous l'avait expliqué à la fin de l'épisode précédent il y a deux semaines, mais on a envie de changer un petit peu simplement le moment dans le mois où est publié Tech2. Là en ce moment c'est publié, c'est surtout enregistré la même semaine que la cartouche, et pour faire en sorte que ce soit un peu plus facile dans ma semaine, étant donné tout ce que j'ai à faire, eh bien on est en train de décaler tout ça d'une semaine, et donc au lieu de vous abandonner pour 3 semaines, on a décidé 2 semaines après l'épisode précédent de faire ce petit bonus, et puis dans une semaine vous aurez un épisode entier. N'hésitez pas d'ici là à nous envoyer vos messages à tech2rk et également par mail, mon cher Franck,
tech2@radiokawa.com.
On passe tout de suite au petit dossier. Et le tout petit dossier de cet épisode bonus de Tech2, c'est donc nos premiers ordinateurs. Et on va commencer par toi, Franck. Quelle était la première machine que tu n'aies jamais touchée, qui n'était pas forcément à toi, mais la première machine avec laquelle tu as interagi?
Alors, ça date... le tout premier PC vraiment que j'ai pu toucher... alors, je ne peux pas vous dire exactement le modèle de la machine. C'était le PC de bureau de ma mère. Parce que dans mon coin du sud-ouest, ma mère était l'une des premières à utiliser un ordinateur de bureau parce qu'elle travaillait dans un centre de soins. Et elle était à la facturation et la gestion des dossiers. Et le truc, c'est qu'elle bossait avec une boîte qui était une boîte de mon coin, qui était à Orthez, côté de Pau, qui s'appelait Start, qui fabriquait des ordinateurs et qui gérait des OS. Ils faisaient leur propre OS. Alors c'était du logo et du basique à l'époque, mais c'était l'époque encore. Chaque boîte faisait un peu son OS maison, machin. Et c'était une énorme machine qui lui servait à faire des transferts de fichiers avec la sécurité sociale de Bordeaux, qui s'appelait les transferts par satellite, qui étaient en fait des transferts par satellite. Donc tu avais une fenêtre, elle avait 2-3 fenêtres dans le mois maximum où le satellite y passait au-dessus, et elle avait genre 3 heures pour transférer les dossiers des malades du centre de soins, donc tous les dossiers de sécu à la sécu de Bordeaux, qui récupéraient les fichiers. C'était un truc test. Et donc c'est le premier PC que j'ai touché, ça doit être 91-92. Donc tu vois, j'avais 8-9 ans, on n'avait pas de PC à la maison, des amis de mon père en avaient et en ont eu pendant toutes les années 90, donc j'ai touché du CPC, j'ai touché de la MSX, j'ai des trucs comme ça si tu veux, mais un petit peu. Et mon premier vrai PC à moi, je l'ai eu très très tard en fait, parce que dès 95, moi j'allais dans les salles de jeux. Parce qu'on avait des salles, on avait la chance d'avoir des salles de jeu dans mon coin. Donc il y avait un Diff Intel Micro à l'époque, qui avait une salle de jeu où j'allais jouer à quelques jeux, les premiers trucs. Donc on jouait à Doom, j'avais des copains chez qui jouaient à Doom et Wolfenstein. Et Duke Nukem, surtout Duke Nukem 3D, où c'était avec Wolfenstein la vraie drogue. C'était des petites configs. Alors les premiers ordinateurs sous Windows 95, les premiers Pentium qui sont arrivés à cette époque-là, donc dans la fin des années 90. Et on est très vite passé au Pentium 2, au Pentium 3, ça a accéléré, les salles de jeu avaient pas mal de matos. Mm-hmm. Et mon premier vrai PC, alors j'arrive plus à savoir si c'est 98 ou 2000, mais je pense que c'est 2000, donc c'est tard, parce que j'avais 18 ans. Mm-hmm. Je l'avais acheté avec mes sous-sous. J'avais racheté à mon ami Lionel et à son père, François. J'avais racheté son PC, l'ancien PC de la maison, qui était un Pentium 2 MMX 166 MHz, qui a été mon premier vrai PC avec le gros écran cathodique, la grosse tour, le gros clavier à l'ancienne et tout. Et qui m'a duré 2-3 ans en plus, tu vois. Avant de mourir, comme beaucoup de PC mouraient à l'époque, la carte mère prenait un court jus et puis c'était fini, si tu veux. Et dessus, on faisait du traitement de texte avec ma mère, parce qu'à l'époque, on avait beaucoup de dossiers, notamment les dossiers médicaux de mon père, comme ça avait été son taf pendant des années, ma mère faisait ça. Elle remettait les dossiers médicaux dessus, et je jouais à un émulateur Pokémon.
Ah ah!
Et j'ai fait mon premier Pokémon, je l'ai pas fait sur console Nintendo, je l'ai fait sur émulateur PC.
C'était quel jeu?
Pokémon Vert.
Ah, la version japonaise.
Oui, la version japonaise qui avait été fan traduite en français. Et donc j'avais mon starter vert, donc starter feuille avec mon Bulbizarre, et c'est le seul Pokémon que j'ai défoncé, parce qu'après j'avais l'émulateur pour Pokémon jaune un peu plus tard, mais j'ai fait Pokémon vert à 100%.
Je te dirais, il y a un seul autre jeu Pokémon que tu mériterais de faire, c'est Or et Argent, mais tout le reste, si t'es pas fan de la licence, je comprends parfaitement que tu passes à côté. Bleu et Rouge, notamment en termes de scénar et en termes de... Tiens, c'est en train de devenir la cartouche, ce podcast. En termes de scénar, il y a plein d'idées qui sont extraordinaires. Par contre, en termes de confort de jeu, effectivement, c'est lent. Mais
pour de plus amples informations, vous pouvez lire le livre Génération Pokémon, écrit par Lula Sina Foubert et Alvin Adaden,
oui,
chez Third Editions.
Ben, exactement. On n'a pas été payé pour vous dire ça. voilà, effectivement. Non, c'est marrant comme si tu...
Alors, pour moi, du coup, c'était à l'époque, je l'avais fait. J'avais passé mon été, tu vois, quand j'ai eu le PC, j'ai fait ça. Et puis après... ben malheureusement, après la mort de mon PC, il y a eu d'autres, j'ai eu pas mal de trucs et j'ai pas eu de PC perso pendant très très longtemps. C'est assez surprenant parce que on dit chez Kawa, t'es un peu le monsieur PC, PCiste qui fait les configs, qui fait des dizaines de configs et tout, mais j'ai pas eu de PC à moi pendant très longtemps. J'allais à la médiathèque de ma ville où j'avais accès à mes mails et tout ça, mais mon vrai PC personnel, donc j'ai eu un énorme trou, on va dire, entre 2002 et 2007. Où j'avais pas de PC à la maison. On m'a prêté un IPC pendant plusieurs mois en 2007, j'ai kiffé. Puis je voulais avoir un vrai PC, mais j'avais pas forcément les moyens à ce moment-là. Et j'ai racheté un PC d'occasion à un de mes potes, à mon pote Jean-Seb, en 2008. Je lui ai racheté son ancien PC, que j'ai racheté pour 350€, un truc comme ça, parce que j'en avais besoin pour mes cours quand j'ai passé mon équivalence à la fac. Et du coup, ça a été mon premier vrai PC perso. Alors c'était... C'était un Pentium 4 un peu boosté, tu vois. C'était juste avant la sortie des premiers cores de duo. Donc c'était juste la génération avant, c'était encore un Pentium. J'ai plus le modèle en tête, malheureusement. Et mon premier vrai PC de boulot, vraiment, qui m'a servi pour travailler sur AOG, pour faire les premières émissions sur Kawa et tout ça, ça a été un Core 2 Duo E8400 avec une 4870. Et après, depuis, j'ai ma deuxième machine de boulot que j'ai toujours, mon gros Atlas avec i7, 3770 et 970. Et ça a été... Ça, c'est mes machines de boulot. C'est vraiment... Là, je peux dire, c'est mes vrais PC. Ce qui est très bête, parce que jusque-là, j'ai eu des PC à la maison. Mes potes avaient des PC, mais j'avais pas, si tu veux, j'avais pas ce phénomène d'appropriation où j'étais le seul maître de la machine. Parce que le premier PC qu'on a eu à la maison à l'époque, c'était pour la famille, si tu veux. Ouais. Et là, j'ai eu mon premier vrai PC tard. Et comme je suivais de toute façon l'actu tech et je m'intéressais depuis toujours au hardware, j'ai fait ma bécane. J'ai fait ma bécane et c'est ma bécane. Et personne n'y touche. Toi, par contre, c'est ça qui est drôle, c'est que t'as 10 ans de moins que moi, mais toi, t'as commencé sur des machines qui ont mon âge.
Qui sont
de ma génération.
Plus vieilles de 7 ans que moi, effectivement.
C'est ça. Et des vraies machines, des vrais PC de maison, par contre.
Mon père avait ramené, je devais avoir 4 ou 5 ans, et j'ai vaguement cette image-là encore gravée dans ma tête, mais avait ramené un Amstrad CPC 6128, je crois qu'il lui avait été passé ou revendu par un collègue. Alors un Amstrad CPC 6128, je découvre ça avec la page Wikipédia, c'est des specs absolument extraordinaires, hein. C'est un processeur 4 MHz, c'est 128 kilo-octets de RAM, dont 64 paginés, 48 kilo-octets de stockage interne, qui contenait BASIC 1.1, pour coder, pour lancer des commandes, etc.
Ouais.
C'était des disquettes avec un lecteur disquette intégré à la machine qui pouvait contenir jusqu'à 178 kilo-octets par face. Donc là aussi, va stocker un JPEG là-dedans. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Non, très honnêtement, voilà, quand tu le démarrais, ça faisait tourner BASIC 1.1, j'y reviendrai dans un instant. Et puis, c'était la version, attention, ce n'était pas la version couleur de l'Amstrad CPC 6128, c'était la version monochrome. Et quand on dit monochrome, on pense monochrome noir et blanc, monochrome bleu et bleu clair. Non, la pire possibilité de monochrome possible,
noir et
vert et vert foncé.
Vert. Ma mère avait noir et orange, et elle, ça lui a bouffé les yeux, parce qu'on oublie un truc sur les premiers PC, les écrans cathodiques étaient extrêmement toxiques et dangereux, parce que le canon cathodique était très 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 mauvais pour la vue, et le bombardement, elle, ça lui a pété les yeux. Ils avaient des écrans de protection, des espèces de trucs épais, qui faisaient filtres à écran. Ça lui a pas suffi, elle a perdu 4 dixièmes à sa vue en quelques années. Aujourd'hui, on est béni d'avoir des écrans plats et tout ça, quoi.
Non, clairement, mais pour le coup, l'Amstrad CPC 6128, il était intéressant à deux égards. Le premier, c'est que, et pour une machine de son époque, de manière très intéressante, en fait, c'est une machine très, très facile à brancher. T'avais d'une part l'écran, qui contrairement au tout-en-un aujourd'hui, bah, n'avait rien lié à l'ordinateur, parce que l'ordinateur était en fait dans le clavier, qui contenait à la fois donc, le clavier, la connexion au courant, et également la connexion à l'écran, donc tout se branchait sur le clavier. À l'intérieur du clavier, il y avait la machine, et à l'intérieur du clavier, il y avait également le lecteur de disquette qui était intégré, qui était un espèce de gros bloc sur la droite dans lequel bah, tu glissais ta disquette. Les disquettes étaient d'ailleurs double face, donc tu avais des programmes qui étaient bah, divisés entre deux disquettes, donc à un certain moment on disait retourne la disquette, éjecte-la, etc. C'était super marrant. Au fil du temps, les disquettes se sont dégradées et autour de 98-99, les disquettes fonctionnaient encore. Milieu des années 2000, fin des années 2000, elles ont commencé à être de plus en plus illisibles. Ce qui est dommage. Pour être très clair, j'ai malheureusement perdu beaucoup de trucs comme ça. J'ai toujours la machine dans un coin, mais les disquettes, la plupart ne fonctionnent plus. C'est un micro-drame.
Le problème, c'était des disquettes magnétiques, on oublie. C'était des disquettes simples, mais magnétiques. Donc du coup, bah, avec le temps, ça s'abîme et ça dépérit assez vite au final.
Donc oui, pour la conservation de tout ça, c'est vraiment regrettable. Donc quand tu lançais la machine, c'était basique, mais tu avais également une disquette système qui était livrée avec, qui permettait de faire tourner CPM. Et CPM te permettait notamment... alors c'est très intéressant parce qu'en fait CPM était dans une définition différente. CPM était plus précis, avait plus de lignes et de colonnes en fait en termes de pixels, ce qui était déjà amusant. Et puis d'autre part, te permettait de faire des tâches du style formater une disquette, qui à l'époque était révolutionnaire. Quand tu étais un premier utilisateur d'une machine, tu pouvais effacer toute une disquette, t'avais peur de faire une connerie, etc.
Et t'avais surtout les clips de sécurité sur la disquette.
Et oui, il y a ça aussi.
D'accord,
et puis
tu penses que les jeunes, ils disent, mais c'est quoi le logo? Pourquoi le truc ressemble à un logo sauvegardé? Non, c'est le logo sauvegardé était une disquette.
C'était voilà, c'est exactement ça. Là, c'est marrant parce que c'est devenu un symbole plus qu'un objet. Ce qui est intéressant avec tout ça aussi, c'est que ça a été l'Amstrad CPC 6128. La première approche, et probablement l'approche la plus profonde que j'ai eue du code en général dans ma vie, basique comme je vous l'ai dit, était dedans, et le manuel était avec, et ça a changé ma vie, parce que le manuel, c'est un machin énorme qui fait 300-400 pages, en français, mes amis, et quand on est jeune, quand on a moins de 10 ans, c'est super important, et j'ai appris à faire des petits programmes en basique, d'abord en les recopiant, puis en les modifiant, puis en créant des petits trucs. Alors c'est tout con, hein, c'était pas des programmes très intéressants ou quoi que ce soit, mais ça m'a enseigné, je me suis un peu auto-administré la logique du code comme ça, évidemment pas à un point où, mais je veux dire, ça m'a, quand j'étais jeune, formé à des idées de qu'est-ce que c'est une variable, quel genre d'opération on peut faire, comment est-ce que tu structures du code pour que ce soit propre et efficace, etc. Et c'est des petits concepts qui, d'une manière ou d'une autre, me sont toujours utiles aujourd'hui. Donc je suis extrêmement redevable en fait de cet Amstrad CPC 6128. Est-ce qu'il était complètement partagé, cette machine-là? Oui et non, parce qu'au final j'étais vraiment la personne qui s'en servait le plus. Mais c'était quand même intéressant de pouvoir le tripoter, je trouve. Voilà, donc c'était l'Amstrad CPC 6128. Et puis ma première vraie machine, vraiment à moi. On passe tout au-dessus de je crois qu'il y avait notamment deux tour blanche compact qui faisait tourner Windows 95, qui était là très clairement partagé familial. On passe au-dessus d'ailleurs d'un Dell, là aussi familial, et on arrive sur une machine qui m'avait été donnée par une membre éloignée de la famille qui s'en débarrassait et qui a été récupérée. Moi, ça tombait très bien parce que je voulais un ordinateur. Une tour, accrochez-vous à tout ce que vous avez autour de vous, Dell Optiplex GX 270. Et si vous cherchez laquelle, c'est la plus grosse. Parce qu'il y a différents modèles de celle-là, mais c'est la plus imposante.
C'est la vraiment 90, la grosse. Ouais.
C'est la tour qui ne peut être installée qu'en vertical, contrairement aux autres.
Une vraie tour de maison à l'ancienne de chez Dell, qui a toujours été un constructeur de talent pour ce qui était de la bureautique. Hein.
Et alors voilà, justement, c'était que pour quelqu'un comme moi, qui avait quand même beaucoup d'intérêt, surtout à l'époque où je ne travaillais pas beaucoup, j'étais jeune, qui avait de l'intérêt aux jeux vidéo, bah, c'est bien dommage parce que c'est vraiment une machine de bureau. Et quand je dis de bureau, c'est une machine de mec qui va utiliser Excel toute la journée.
C'est ça.
Ce qui en portée se voit quand tu vois la tête de la machine et le nom de la gamme Optiplex. Enfin, c'est vraiment là pour être acheté par pack 200 et configuré par un mec qui fait de l'IT dans une boîte de compta. Hein. Faut être très très clair. Et donc, dès l'Optiplex GX 270. Il était venu, je crois, avec, je ne sais plus si c'était Windows 2000 ou XP, et en termes de performance, c'était pas top top, donc j'avais réinstallé Ubuntu dessus. Ça devait être Ubuntu 9 ou 10, point, je ne sais plus combien, si c'était la version d'avril ou d'octobre. Parce que, en fait, les numéros de version d'Ubuntu, c'est si vous ne le savez pas, c'est les deux derniers chiffres de l'année et les deux chiffres du mois.
Ouais.
10.04, c'est la version d'avril 2010. Mmh. Et en fait, normalement, je crois que c'est encore le cas aujourd'hui, il y a deux releases dans l'année, une en octobre, une en avril. D'où la raison pour laquelle c'est soit 0.4, soit 1.0, au-delà du truc de l'année. Donc, j'avais installé Ubuntu et c'est comme ça que j'ai passé 3-4 ans et que j'ai commencé justement mes activités de podcasting sous Linux, figurez-vous.
Ouais.
Et de Linux, je suis parti alors pour ce qui concerne les ordinateurs portables dans un premier temps sur macOS et pour ce qui concerne les ordinateurs du bureau sur une tour Windows 7 qui là je peux lui donner encore des coups de pied, elle est juste à côté de moi.
On avait changé la carte graphique il y a 2 ans je crois.
Et il y a 3 ans,
3 ans, 4 ans
et il y a maintenant 2 ans. Février 2016, je crois, j'ai acquis l'iMac depuis lequel je vous parle en ce moment. Donc voilà, ça c'était.
Il y a eu un warp. J'ai l'impression que tu l'avais acheté l'an dernier. Tu vois l'iMac, non, ça fait déjà 2 ans.
Non,
ouais.
Non. L'iMac c'est 2 ans et le MacBook, MacBook c'est l'an dernier.
L'an dernier,
exactement.
Ouais.
Et ça risque pas de changer avant un long moment. Là, si on établit en termes de chronologie, ce serait mon iPhone qui serait le prochain à changer vu que c'est le plus ancien de la gamme. En vérité, je me vois pas changer avant au moins 1 an de téléphone, pour être très très clair. Et comme d'habitude avec ça, je les revends à des gens qui en ont besoin parce que j'aime pas l'idée de m'en débarrasser de manière un petit peu dégueulasse.
Puis l'iPhone 8, il durera encore un moment. Donc,
J'ai le 7, j'ai le 7.
Même le 7, le 6S, c'est encore en activité, tu vois. Donc,
non, clairement. En fait, la question, c'est jusqu'à quand est-ce que, pour mon iPhone 7, jusqu'à quand est-ce que rester sur iOS 10 est raisonnable?
Oui, voilà. C'est ce qui dépendra, c'est ce qui fera de faire prendre la dépense, en fait, tout simplement.
Ça, c'est dépendant d'énormément de... En fait, ma logique, c'est quand j'ai... En fait, je suis quelqu'un qui met beaucoup plus d'importance sur le software et la fluidité du software que sur le hardware. Que ton téléphone ou ton truc, il est Face ID ou pas, personnellement, je suis assez froid à ce genre de circonstances. La question, c'est qu'est-ce que ça me permet de faire et avec quel niveau de confort. Et je suis prêt à mettre beaucoup de pognon là-dedans si ça signifie un bon niveau de confort ou des features vraiment intéressantes. À mes yeux, évidemment. Tout le monde n'est pas obligé d'avoir le même avis que moi sur ce genre de choses. Et quand j'achète un nouvel ordinateur ou une nouvelle tablette, machin, etc., en fait, j'achète des features. J'achète une version de l'OS que je sais tourner correctement sur cette machine. Mmh. C'est comme ça que je pense les choses. Par exemple, si je m'achète un jour une nouvelle tour Windows, je me l'achète pour Windows 10 et pour les jeux qu'elle fera tourner. Mmh. Je me l'achète pas parce qu'elle aura Windows Hello ou ce genre de conneries. Je m'en fiche complètement.
Oui, ce qui est normal.
C'est vraiment... Ou pour, je sais pas, HDMI 3.0. Ça me passe au-dessus de la tronche. Pareil, quand j'en parle de temps en temps dans la cartouche, mais quand je regarde, je m'en prends pas une, mais quand je considère, quand je regarde ce qui se passe avec la Xbox One X et avec la PS4 Pro, mon angle de réflexion, c'est est-ce que ça me permet de rendre les jeux plus fluides, pas est-ce que ça me permet de les afficher en 4K.
C'est ça.
C'est ça, malheureusement.
C'est ça, on est d'accord sur ce point. On en a parlé plein de fois dans l'étolier. Vous avez dû en parler aussi avec Lou dans la cartouche.
Avec
mais,
Lou,
tu
ouais.
vois, c'est le truc de oui, la 4K c'est bien, mais de toute façon, le standard pour l'instant, il a fini d'être en 1080p. Il va commencer à monter sur du 2K 4K. Déjà, optimisé pour du 1080p ultra fluide, c'est déjà bien, quoi.
Ouais. Malheureusement, l'industrie du jeu vidéo n'est pas forcément.
C'est pas. Il faut bien des arguments de vente. On en a déjà parlé. C'est toujours pareil. Faut bien vendre.
Bah oui. Et puis, c'est toujours. C'est entre guillemets techniquement, je vais utiliser le terme de plus facile, même si je sais que c'est de toute façon des heures et des heures de taf, et je réduis pas évidemment la qualité du travail, mais c'est de toute façon entre guillemets plus facile d'afficher un jeu en 4K ou d'afficher du détail que de rendre quelque chose potentiellement de moins
l'optimisation
de moins visuel, plus optimisé.
Compliqué.
Parce que l'optimisation, c'est énormément de boulot.
C'est
si tu veux optimiser un jeu de but en blanc dans tous les cas de figure, bah ça prend un temps ouf. Logiquement parce que tu dois tester tous les cas de figure même s'il y a beaucoup de personnages, d'ennemis, de PNJ à l'écran, même s'il se passe beaucoup de choses, même si la logique du jeu elle calcule énormément de choses, il faut que ça puisse fonctionner correctement.
Du coup t'es vraiment ouais. toi très accroché à l'utilité du software, la fluidité du software et vraiment la fluidité de l'expérience.
Exactement.
C'est surtout ça, et c'est ça qui est intéressant, c'est que tu privilégies l'expérience sur même la puissance du hardware.
Ce qui explique totalement pourquoi je suis sous Apple aujourd'hui.
Ce qui est tout à fait recevable, oui, on est d'accord.
Apple offre une des meilleures expériences, qui n'est pas sans défaut, je le rappelle un millier de fois, parce que je sais ce qu'on va me dire si jamais je ne dis ça sans mettre de disclaimer.
Il n'y a rien qui est parfait, la perfection n'existe pas, et non, encore moins en informatique.
Tout à fait, mais malgré tout, voilà, on est encore...
C'est assez smooth, pour reconnaître.
Exact. Sur du hardware, et c'est ça qui est toujours intéressant, sur du hardware qui est généralement inférieur à ce qui se fait sur tour Windows ou sur
c'est
laptop
vrai
Windows.
Que chez oui c'est tu regardes enfin tu compares la fluidité sur une grosse bécane gamer à 1600 balles et sur un MacBook ou un MacBook les anciens MacBook Pro qui coûtaient les mêmes prix, certes tu peux pas jouer sur MacBook Pro sauf si tu mets un dual boot Windows. Mais quand même, t'as quand même, je vais utiliser un terme anglais, mais t'as la sexiness, tu as le sex appeal, l'appétence du truc qui fait que t'es dans cet univers, dans cette ergonomie extrêmement fluide, extrêmement adaptée. Et je suis content que Windows fasse des efforts et tende vers se rapprocher peut-être un peu de macOS et même parfois d'iOS pour certaines bonnes idées. Parce que justement ça fluidifie l'expérience et ça la rend beaucoup plus user friendly pour les gens qui sont pas forcément adaptés ou qui n'ont pas l'habitude de l'informatique et beaucoup plus dirigé vers les pros pour les professionnels qui veulent comme moi beaucoup travailler sur Windows.
Ceci dit, je vais reprendre un leitmotiv de The Verge, notamment de Nilay Patel, qui est rédacteur en chef de The Verge depuis quelques années, qui le dit régulièrement et je suis tout à fait d'accord avec lui, tout est trop compliqué. Tout dans ce qu'on utilise aujourd'hui, que ce soit sur téléphone, sur vos ordinateurs, etc., tout est trop compliqué et tout est trop inaccessible pour des gens qui n'ont pas l'habitude. Et ça fait depuis 20-30 ans qu'au moins ce paradigme-là d'écran de bureau, de doc, etc. existe, et tout reste trop compliqué, tout n'est pas assez pensé pour les gens qui les utilisent pour la première fois, ou alors on prend les gens pour des imbéciles et on fait des écrans et des tutos qui parfois sont mal conçus. Enfin,
j'ai un exemple là-dessus si je peux intervenir, mais j'ai un exemple là-dessus qui est assez drôle. Bah, j'ai parlé de ma mère au début de l'épisode. Donc à The Patron, la patronne, et le truc c'est comme je disais, elle a travaillé sur informatique, elle était donc elle programmait tous les trucs parce qu'à l'époque fallait tout y aller en ligne de commande et en code et coder tes actions et le reste, et après avoir quitté son boulot, qu'on n'avait pas de PC à la maison mis à part celui qu'on a eu dans l'intervalle, elle n'avait plus de PC. Quand j'ai eu un IPC en 2010, les premières tablettes sont arrivées, il commence lui à fatiguer, je l'ai refait, tu sais, j'ai changé le ventirad processeur, j'ai nettoyé un peu de ça et je lui ai installé Linux. Et elle voulait pas du tout, ça l'intéressait pas, parce que pour elle l'informatique c'était l'informatique des années 90, donc du code, des trucs où tu pisses du code, tu vas à la dure, à l'ancienne, et toutes ces versions assistées pour elle c'était trop simple et trop compliqué à la fois, parce que trop d'icônes, trop de raccourcis, trop de bêtises.
Ouais.
Elle a passé 3 ans sous Linux, 3-4 ans sous Linux, depuis 2011 jusqu'à 2015, je crois. 2015 ou 2016, elle était sous Linux. D'abord, elle était sous Ubuntu. Après, je l'ai faite passer sous Mint avec Petra. Elle avait Linux Mint en version Petra. Et là, par contre, tu vas rire, mais étant donné que l'environnement était... Ben, c'est de l'environnement Linux, donc c'est assez proche au final d'Apple dans pas mal d'utilisation, notamment sur Petra. Mais elle faisait ses mises à jour toute seule, elle faisait ses trucs, elle s'est mise à bosser dessus, elle faisait ses petits trucs. Et quand je lui ai acheté son PC sous Windows, elle a eu un effet de recul. Pourquoi ? Parce que ça paraissait simple et en fait c'était compliqué. Et il lui a fallu bien 6 mois. Elle a son propre PC portable, elle a un laptop Lenovo avec un écran 15 ou 17, je crois que j'avais pris un 17. Pour qu'elle ait un bon écran, et du coup ben maintenant elle a aucun souci. Mais comme elle me dit, il y a beaucoup trop de trucs compliqués pour aller dans les options, pour même sous Mac, je vais montrer des screens de Mac et le reste pour voir si ça l'intéressait. Elle me dit, moi quand je veux aller dans le son, j'ai envie de taper son, d'avoir les réglages du son qui apparaissent et de pas avoir 36 millions de trucs comme par exemple le panneau de commande du mélangeur de Windows. Ça c'est un truc dont je parlais justement avec David Catu aussi sur les problèmes de son des drivers Windows. C'est un truc très bête, hein,
oh
mais
Dieu.
voilà, c'est quand tu branches un périphérique USB qui est chargé d'être une carte son ou un truc comme ça, comme pour mon micro, j'ai envie que ce soit elle qui me prenne le son de Windows et qui soit prioritaire et pas l'OS. Ça le fait sous Mac. Tu vois, c'est des simplifications. Et aller vers la simplification de je branche un truc qui va prendre en partie le contrôle de cette partie de périphérique sur l'OS, ben ça, c'est un truc qui permettrait de faciliter l'utilisation pour les gens, pour beaucoup de gens qui ne sont pas forcément des pros en informatique ou qui ne sont pas du moins un minimum connaisseurs.
Et je tiens à préciser, alors je vais être un petit peu technique sur la question, mais rappelez-vous quand même que le principe des App Store d'aujourd'hui, il est complètement repompé sur le concept très linuxien du gestionnaire de paquets.
Exactement. Ma mère adorait ça. Je te jure, quand elle faisait, elle allait chercher les repos, les repos du truc, elle prenait ça. Moi, j'étais là, mais t'as appris ça toute seule. C'est simple. Regarde, tu vas là, tu cliques, c'est bon. Ok.
En gestionnaire de paquets, tout le monde a un petit peu l'habitude de Synaptic, qui est un petit peu bordélique, parce qu'en gros, c'est très technique. Il t'affiche des branches de logiciels, tu sais pas trop ce que ça veut dire. Enfin, c'est des listes énormes sur lesquelles tu peux cocher et dire oh, je veux ça, etc. Ah, je veux telle mise à jour, je veux ce genre de choses-là. Depuis très longtemps, avec la Logitech Ubuntu, avec GNOME Software, il existe des interfaces graphiques qui rapprochent justement ça, très très proche de ce que peut être un Windows Store, un Mac App Store, etc. Donc c'est déjà beaucoup mieux. Et puis surtout, voilà, ça existe depuis beaucoup plus longtemps. C'est cette idée-là qui a été reprise, qui permet à la fois d'installer des nouveaux logiciels et d'installer des mises à jour. Le seul problème, je dirais, avec ça, c'est toute la logique de dépendance qui est très propre au gestionnaire de paquets Linux. En mode, ah oui, tu veux installer ça, mais en fait, tu dois installer un autre bout de logiciel qui est complètement ailleurs et on te le propose pas par défaut. Là, ce qui devient un peu débile. Donc, très clairement, c'est le genre de choses où le gestionnaire de paquets par défaut, il te le fait pas et c'est dommage. Et c'est tout justement ce que des boîtes commerciales qui veulent faire du facile à utiliser plutôt que du très spécifique à des usages très avancés ont comme qualité. Bref. Gestionnaire de paquets avait l'idée bien avant, c'est ce qu'il faut retenir. Mais voilà, je pense qu'on a bien fait le tour, en tout cas, des différentes machines et des petits usages d'ailleurs qu'on avait autour de ces machines-là. Merci beaucoup, Franck.
Merci à toi, Yann. C'est un plaisir de parler des premières bécanes qu'on a eues, même si ça me fait toujours rire que t'aies eu accès au CPC avant moi, en fait.
C'est ça.
Je l'ai eu tard, le CPC, moi, dans ma vie, en plus.
Vous pouvez nous écrire sur Twitter @techtowerk et par mail techtower@radiokawa.com. Cet épisode bonus a été enregistré le 10 mars 2018. Merci beaucoup, Franck, @fox, monsieur, sur Twitter.
Merci à toi, Yann, InksHD sur Twitter.
Merci à Julien Bro pour le logo, Benji Pesque pour l'habillage. Merci à vous toutes et tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous faire vos retours et puis rendez-vous dans une semaine. Ça fait pas plaisir, ça, dans une semaine, pour un prochain épisode de Tech 2. Voilà, on s'est recalé, c'est tranquille. Prochain épisode dans une semaine, puis on reprend toutes les deux semaines à partir de là. Donc vous inquiétez pas, vous n'avez rien loupé. Allez, à bientôt, ciao, ciao.
Ciao.
But it's not really a bossa nova. But we think that you will dig this.
Toi, auditeur, tu es en quête d'un rendez-vous mensuel qui parle dans les longueurs de toutes tes passions? Tu cherches une fenêtre vers tout ce que le Japon peut faire, même de plus barré et niché? Ne cherche plus!
LOL Japon est un podcast long format, animé par Amo et Concombre, mêlant bromance et japonaiserie, dédié aux animés, manga et leur industrie, jeux, cinéma. Tout y passe en statut culturel, dossier et 4 rubriques qui changent à chaque numéro. Aucune limite de temps, de ton ou de genre, avec des invités ou non.
LOL Japon est un podcast mensuel disponible sur Radio Kawa, iTunes et les applications dédiées, diffusé en direct un vendredi par mois.
Plus c'est long, plus c'est bon, tout est bon dans le Japon.
Toutes les deux semaines avec Yann
et avec Lou,
on vous parle du jeu vidéo d'aujourd'hui à travers les news, des critiques de jeux, des dossiers.
On reçoit également des invités et on répond à vos questions.
La cartouche, ce n'est pas toute l'actualité du jeu vidéo,
c'est votre actualité du jeu vidéo.
Un vendredi sur deux
sur Radio Kawa.
C'est la cartouche sur Radio Kawa.